BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, il est 9h passé de 31 minutes, on est toujours en direct sur BFM Business, c'est les experts. On est parti pour une heure de débat et de controverses sur l'actualité économique du jour. Une actualité marquée ce matin par la flambée des taux. Alerte sur les taux à 30 ans qui ont dépassé les 5% aux États-Unis, du jamais vu depuis la crise de 2008. Et en France, l'OAT a passé la barre des 4%. Alors on est juste en dessous en ce moment, mais elle flirte avec cette barre symbolique. Alors que se passe-t-il sur les marchés? Pourquoi cet accès de fièvre et quelles conséquences? Une situation, ce sera le premier thème des débats des experts ce matin, c'est une situation qui ne va pas simplifier le travail de Bercy, qui cherche déjà 6 milliards d'économies pour compenser le coût de la guerre, et ce sera probablement davantage, a indiqué hier Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale. Alors, État, entreprise ou ménage, qui va devoir passer à la caisse pour régler la crise? Ce sera le deuxième sujet ce matin. Et puis, comment financer la dépendance? La Fédération hospitalière de France propose de piocher, solution originale, dans une partie des droits de succession, alors qu'entre 5 000 et 9 000 milliards d'euros de patrimoine devraient changer de main d'ici 2040. Et puis cette nuit, les eurodéputés et États membres de l'UE sont tombés d'accord pour transposer juridiquement l'accord de Turnberry. C'était l'été dernier, souvenez-vous, entre les États-Unis et l'Europe. Un accord qui prévoit 15% de droits de douane pour les produits européens importés aux États-Unis. Alors pourquoi ça a pris tant de temps? L'Europe sort-elle gagnante ou perdante de ce deal? Ce sera le dernier thème des experts ce matin. Il est 9h33, il est 9h passé de 33 minutes. C'est les experts, c'est parti. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Guillaume Dard. Bonjour Guillaume.
Bonjour Raphaël.
Face à vous, Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Bonjour
Adi.
À BFM Business et Gilbert Sept. Bonjour Gilbert.
Bonjour.
Professeur d'économie à Neoma Business School. Je voulais qu'on commence par ce qui se passe sur les marchés obligataires, sur les taux qui ont flambé là encore dans cette nuit. Ça fait quelques jours que ça dure, hein, Guillaume Dard. Mais enfin là, c'est la cote d'alerte. 5,2% sur les taux à 30 ans aux US.
C'est très préoccupant et comme vous venez de l'expliquer, c'est un phénomène qui ne touche pas que la France, qui ne touche après la plupart des grandes démocraties,
oui,
en ce moment. C'est-à-dire que, à la fois, les États-Unis, vous vous rappeliez que le taux à 30 ans est passé à 5,20%. C'est très important le taux à 30 ans aux États-Unis parce que c'est le taux sur lequel sont indexés les financements hypothécaires, les financements immobiliers. Donc, ça peut avoir des conséquences sur le marché,
immobilier américain.
Immobilier, ce qui fait des taux importants. Les taux aux États-Unis pour l'immobilier, c'est du 6,5%, du 7%, hein. Donc, c'est beaucoup plus fort qu'en Europe.
Oui, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, hein, de l'immobilier américain.
En Grande-Bretagne, la situation est absolument catastrophique, avec un paysage politique qui ressemble à celui de la France dans la perspective préélectorale, c'est-à-dire incroyablement fragmenté, avec ce parti un peu iconoclaste qui réforme, qui prend du terrain, mais qui dit qu'il faut rechanger le système. Et à l'intérieur du parti travailliste, une espèce de split avec une partie de gauche, très à gauche, qui voudrait revenir vers la nationalisation. Aux États-Unis, on ne va pas s'étendre. Au Japon, c'est complexe aussi. Et en Italie, ça va un tout petit peu mieux, mais ce n'est pas terrible. Donc, on a une montée des taux d'intérêt partout. Il y a deux raisons. Il y a on a une politique monétaire très, très, très favorable depuis la grande crise financière 2008 où on a créé énormément d'argent. On en a remis énormément sur la table en 2020 post-Covid. On en a enlevé un peu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément d'institutionnels qui sont obligés d'acheter des obligations. Mais on atteint le moment où on peut avoir ce qui se produit de temps en temps sur les marchés obligataires. En 1987, on avait pris 3% pendant l'été. En 1994, on avait fait 1%. Et si on passe les 4, les 5 sont, si on passe vraiment les 4% sur la France, pardon de finir, parce que c'est très important que les gens aient un chiffre en tête, la résistance des 4% est très importante, parce que sinon on peut avoir un dérapage, parce que les marchés, ça fonctionne comme ça, c'est stable jusqu'au moment où ça dérape, et là on peut aller vers 5%, et 5%, l'équation budgétaire, elle sera terrible, donc on est dans un moment clé, et ce qui est très ennuyeux, parce que vous connaissez le principe de Murphy, tout ce qui doit se passer mal se passe mal, les États sont surendettés, donc ça doit se passer mal sur les marchés, généralement au plus mauvais moment, au moment où on change le patron du système mondial financier, le patron de la Fed.
Bon, Jean-Marc ?
Oui, dans cette situation, je pense qu'il y a effectivement des effets de court terme, hein, parce que les taux d'intérêt montent, mais simultanément, aujourd'hui, pour la première fois, l'or va être en dessous de 4 500 $ l'once. Mmh. Donc il a retrouvé son niveau de la fin de l'année dernière, alors qu'il s'était pulvérisé à plus de 5 200 $ l'once. Donc on a l'impression que les endroits qui sont les biens, qui sont le refuge naturel en cas d'inquiétude, ne répondent pas à cette fonction. Donc, l'or ne monte pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser.
Qu'est-ce qui explique ce dysfonctionnement?
Alors, ce qui explique ça, c'est justement, on va revenir à l'acteur essentiel du moment, c'est la banque centrale. C'est-à-dire que les banques centrales avaient acheté beaucoup d'or à la fin de l'année dernière, et puis là, en ce moment, elles sont plutôt en retrait par rapport à ce mécanisme. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe à plus moyen terme, c'est l'analyse d'un certain nombre d'économistes sur la période des années 80, en disant que, en fait, tout le monde avait encensé Volcker, puis ensuite s'est abattu sur Greenspan, en disant qu'après avoir été le gourou, finalement...
Paul Volcker, on rappelle,
Il avait lutté contre l'inflation. Et il y a une relecture des années 80 en disant que ça a été calamiteux parce que la politique monétaire avait été tellement restrictive que pour éviter de casser la croissance, l'État américain avait été obligé de faire un énorme déficit, le déficit Reagan. Et donc la conséquence, c'est qu'on avait été dans une situation où il y avait à la fois des taux d'intérêt très élevés et un déficit budgétaire énorme. Et dans le
policy mix, la situation qui perdure aujourd'hui.
C'est la pire seule des choses qui puisse arriver, c'est d'avoir effectivement des taux d'intérêt. Et à l'époque, Samuelson avait rappelé qu'un des objectifs, une des missions de la Banque centrale américaine, c'est pas tellement de lutter contre l'inflation ou de lutter contre le chômage, dont il dit que de toute façon les deux sont incompatibles, il y a un arbitrage de Phillips pour Samuelson, il dit, c'est de maintenir des taux d'intérêt compatibles avec la croissance potentielle. Et donc ce que j'ai trouvé intéressant dans le discours du nouveau président de la Réserve fédérale, c'est qu'il a rappelé que son indépendance n'avait de sens que s'il respectait l'ensemble de ses mandats, mm-hmm. y compris le mandat visant à maintenir des taux d'intérêt compatibles avec la croissance potentielle des États-Unis.
Donc je pense c'est un message adossé à Trump, ça.
Oui, absolument. C'est-à-dire que je pense que des enjeux du moment, c'est effectivement l'attitude des banques centrales, sachant que, un, le discours, elles sont là pour lutter contre l'inflation, ne correspond plus à la réalité économique mondiale. Il y a des tensions sur les prix, mais il n'y a pas de l'inflation au sens historique du terme. C'est-à-dire que assez vite, je maintiens...
La spirale prix-salaire.
Voilà, la spirale prix-salaire n'est pas au rendez-vous.
Et donc, on va quand même augmenter le SMIC le 1er janvier, là.
Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de SMICards. Il ne va pas y avoir de l'inflation, mais il va y avoir de plus en plus de SMICards. Mais en revanche, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on est dans une situation où les banques centrales doivent réfléchir à leur rôle, revenir à cette idée qu'elles sont là aussi pour avoir des niveaux de taux d'intérêt compatibles avec la croissance et se poser la question, par rapport au bilan du quantitative easing, est-ce qu'elles vont être appelées de nouveau à augmenter le volume d'emprunt public qu'elles vont acheter ? C'est-à-dire, est-ce que la mission de la Banque centrale, ça va être maintenant de passer un accord, là aussi, dans les travaux qu'il y a en ce moment, il y a une sorte d'accord implicite qui avait été passé entre Greenspan et Clinton sur le thème « je baisse les taux d'intérêt » et Vous réduisez les déficits budgétaires. Oui. Je fais une politique.
Ça marche arrière, donc.
Voilà. Et donc, je baisse les taux d'intérêt, vous déficitez les déficits
qui avaient bien marché, qui
avait très bien marché.
Avec un excédent incroyable, et on se disait, il n'y aura plus de dette américaine à placer. On voit que ça va vite.
Et donc, je pense qu'effectivement, un des enjeux derrière les éléments purement conjoncturels, c'est de réfléchir à ce à quoi on sert une banque centrale. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une banque centrale et ne pas considérer qu'il y a une espèce de tabou qui consiste à dire elle est là pour l'inflation, quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, c'est l'inflation. Oui. Elle est là pour répondre aux...
Il y a le DOM et puis il y a l'application du DOM.
Oui, elle est là pour répondre aux exigences de l'économie à l'instant T.
Une réponse qui est laissée par les Gilbert.
Je serais curieux de savoir si les questions sont aussi précises en ce moment même en commission des finances à l'Assemblée nationale. Où est auditionné Emmanuel Moulin, probable futur gouverneur de
la Banque de France.
De France. Nos chers députés seraient inspirés d'écouter les experts.
Ça va se décider aujourd'hui, effectivement.
Gilbert Sept.
Écoutez, tout a été très bien dit par mes deux merveilleux collègues. Je dirais que les banques centrales sont dans la situation la pire pour elles. La pire pour elles, au sens où la conjoncture est mauvaise, la croissance est ralentie et les perspectives de croissance sont abaissées progressivement. Et pour autant, on a de l'inflation. Donc, c'est une situation qu'on a qualifiée, qu'on a nommée de stagflation
à d'autres
époques. Donc mettre
Il y a un débat, pardon Gilbert, accentuer. Je vous coupe une seconde, il y a un débat autour de ce terme de stagflation. Est-ce qu'on est, oui ou non, en période
en tout
de
cas,
stagflation
en tout cas, on peut,
Moi,
en tout cas,
non.
On peut...
Moi, je dis oui.
En tout cas, on peut se diriger vers cela. Les perspectives de croissance sont abaissées continuellement depuis quelques semaines.
Oui.
Et le 0,9% de croissance pour la France, qui est dans le RA, dans les prévisions de Bercy, paraît maintenant bien optimiste. Hein. L'acquis de croissance à la fin du premier trimestre pour l'année 2026 est de 0,4%. Il faudrait une croissance soutenue sur la fin de l'année.
0,3% à chacun des trimestres, ça va être
0,3%
hein.
Sur chacun des trimestres,
oui.
D'ici la fin de l'année, pour toucher les 0,9% prévus par Bercy. Ça paraît une perspective non...
optimiste, volontariste, oui, comme on dit à Bercy.
Très, très, très volontariste. Donc les banques centrales sont dans une situation un peu complexe pour elles, et évidemment, avec les 3% d'inflation dans la zone euro, même si la France fait un bon score avec ses 2,5. Hein.
Oui.
Il y a deux pays qui font un petit peu moins que nous, Malte et la Finlande, mais à part ces deux pays-là, tous les autres font plus. L'Allemagne est à 2,9, ouais. L'Italie est à 2,9, nous sommes à 2,5, et la moyenne de la zone euro est à 3%. Donc, le dilemme va être très fort pour, évidemment, la BCE, et le Conseil des gouverneurs de la BCE, avec un nouveau gouverneur pour la France, pour représenter la France, et pour la Fed. Donc les décisions vont se prendre le mois prochain. Néanmoins, pour l'instant, je suis d'accord avec Jean-Marc, il n'y a pas de transmission au salaire. Pour l'instant, il faut insister sur
c'est un choc des prix.
Faut insister sur ce pour l'instant. Néanmoins, dans la tension, à côté des réactions des banques centrales, dans la tension qu'on connaît sur les taux longs, il y a trois causes. La première cause, c'est évidemment l'attention qui est portée aux réactions des banques centrales et la possibilité que les banques centrales se raidissent et appuient davantage sur le frein en augmentant leurs taux. Il y a le besoin croissant des États, puisque la croissance se ralentissant, les besoins de financement public vont augmenter. Et puis, aux États-Unis, il y a les annonces du nouveau chairman.
Kevin Warsh.
Qui disent, je vais nettoyer le bilan. Et donc, je vais mettre sur le marché davantage de dettes publiques américaines. Et ça, c'est évidemment une tension spécifique aux États-Unis, mais qui n'est pas négligeable et qui peut se propager, qui peut s'étendre, qui peut se diffuser à l'ensemble des pays pour les taux longs. C'est pas négligeable parce que on compte ça en milliers de milliards quand même, hein,
de dollars. Passe la parole Guillaume Dard. Je voulais simplement qu'on écoute François Villeroy de Gallo hier qui a été interrogé sur une possible hausse des taux. C'était probablement la dernière intervention publique du gouverneur de la Banque de France. On l'écoute tout de suite.
Je crois qu'il ne faut pas focaliser le débat seulement sur le calendrier. Permettez de le dire avec un sourire. Quand on était au mois d'avril, c'était qu'est-ce que vous allez faire 20 avril. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez faire début juin. Je vais le dire en anglais parce que ça s'y prête mieux. The main question is not about the date, it's about data. Pas un calendrier, mais des données. Mais nous serons prêts à agir comme il le faut parce que nous avons une obligation de résultat. Les ménages et les entreprises françaises et européennes peuvent nous faire confiance pour assurer cet ancrage de l'inflation à 2%. Je le redis très fortement.
Alors, il faut augmenter les taux ou pas?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on écoute cette déclaration de François Villeroy de Gallo, c'est d'abord, il faut voir qu'il s'était positionné à l'intérieur des banquiers centraux européens comme celui qui était au fond une position assez centriste, mais enfin plutôt flexible, plutôt dovish, plutôt colombe, c'est-à-dire par opposition aux gens du Nord qui veulent que les taux soient plus hauts, il était une position. Et il a rappelé ce date for data, et là, ça va être c'est très différent parce que Kevin Warsh a expliqué dans son intervention que lui, il veut changer ce système. Vous savez qu'on entend à chaque conférence de presse de la BCE et de la Fed, on attend d'avoir des datas, des données complémentaires et on jugera par rapport aux données, etc. Il dit, d'abord, il faut faire beaucoup moins de blabla. Hein. la fonction du gouvernement central, c'est à la fois de prendre ses décisions et c'est à la fois d'être un espèce de chaman. C'est Greenspan qui l'avait mis en place, c'est-à-dire on dit des choses qu'on comprend pas vraiment. Voilà,
et puis si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé.
Et ça rassure tout le monde, etc. Et il dit, bon, le chaman, tel que l'a fait Powell, d'abord il vient tout le temps, donc il ne fait plus sa fonction de chaman. Et d'ailleurs, moi je vais faire le chaman dans la hutte. Il n'est pas je vais réduire le nombre de conférences de presse très systématiquement. D'abord, c'est une invention récente, cette conférence de presse. Greenspan n'en faisait pas. Il faut que la parole soit rare. Il faut qu'on réduise le nombre de réunions. Et on pourra agir en dehors des réunions. Donc, il veut être plus mystérieux. Alors, je reviens juste sur un point dans la discussion avec Jean-Marc. C'est la notion d'inflation, elle est très importante pour les couches défavorisées. Parce que quand l'inflation du panier de la ménagère, et on voit tout le débat sur les gens qui roulent beaucoup, les gens sont très, très à juste titre, très, très sensibles à la variation de prix, même si ça n'est pas techniquement de l'inflation, parce qu'ils se doutent qu'ils n'auront pas forcément une boucle prix-salaire.
C'est exactement les réactions, je me permets de vous couper, que j'ai sur mon compte Twitter, n'hésitez pas, @lejeanra. Il faut arrêter avec cette coquetterie pseudo-académique des économistes, nous dit Bob Merle, qui ne voit pas l'inflation dans nos économies développées tant que la spirale prix-salaire ne se voit pas.
Voilà, alors,
sur le bec.
Deux réactions à ça. Jean-Marc saura se défendre, je n'ai pas besoin de le défendre, il a toujours raison. Mais voilà. Le sujet, c'est la stabilité sociale dans des temps très instables socialement. Et c'est vrai que c'est pas le moment de rajouter une hausse des prix, qu'elle soit, qu'elle s'appelle inflation ou pas, qui soit sensible. Les banquiers centraux sont quand même pas absolument autistes au point de pas voir les disputes sociales, enfin de les dissensions sociopolitiques.
Ils vivent aussi dans la cité.
Dans toutes les démocraties. Bien et sûr. On sait quand même qu'un des facteurs d'accélération le plus fort, c'est de déstabilisation, c'est l'impôt. Et la deuxième chose sur Kerry Walsh, et là je donne raison à Jean-Marc, c'est que Jean-Marc il dit attention, personne ne sait ce que va donner comme gain de productivité l'IA, comme possibilité de croissance, et qu'à ce moment-là, il faut pas que je mette un trop élevé, comme l'IA va rendre nécessaire énormément d'investissements en milliers de milliards, là aussi, je ne dois pas casser cette possibilité de croissance pour un accident sur les matières premières à court terme.
Jean-Marc. Oui, je voudrais réagir à trois niveaux. D'abord, par rapport à l'auditeur téléspectateur, dire effectivement, c'est un enjeu classique. Enfin, j'ai commencé ma carrière à l'INSEE il y a près de 50 ans. Déjà, à l'époque, il y avait un enjeu autour de l'indice des prix qui ne reflétait pas la réalité du pouvoir d'achat. Et Jean Fourastier s'était illustré en rappelant que pendant toute sa carrière au commissariat au plan, on demandait régulièrement aux gens combien il leur manquait pour avoir un niveau de vie décent. Et il leur manquait toujours 15%. Et,
oui.
et aussi bien en 1950 qu'en 1970, il manquait 15% de revenus.
Donc toujours un sou pour faire 100 sous.
Alors que, en réalité, leur pouvoir d'achat s'était considérablement amélioré. Et de façon là aussi anecdotique, en ce moment même, on vote une loi sur le plan agricole,
oui,
du fait de l'effondrement du prix du lait et d'un certain nombre de légumes, parce que les agriculteurs n'arrivent pas à vendre à un prix raisonnable leur production. Et quand on va effectivement dans les supermarchés, eh bien ça se voit. Je ne sais pas si... moi j'achète aussi, non pas en tant qu'économiste, mais en tant que citoyen...
Oui. Et consommateur.
Et consommateur du lait, et je peux vous dire que je le paie moins cher qu'il y a un an. Donc, il y a aussi des prix qui bougent dans un autre sens qu'on ne voit pas toujours. Donc, il y a cet aspect un peu psychologique avec le fait que, pour conclure là-dessus, ce qui me frappe dans le débat, c'est qu'on n'arrête pas de dire que le pays s'appauvrit, alors que l'INSEE n'arrête pas de dire que le pouvoir d'achat augmente. Donc, il y a un véritable décalage.
Oui. Entre le ressenti et le réel.
Entre le ressenti et le réel.
On essaie de rapprocher en permanence dans cette émission.
Mais c'est vrai. Le PIB a une croissance. La seule chose, c'est que le pays s'appauvrit.
Hein, je le rappelle. Il n'en a plus.
Non, mais le PIB a une vague, quand même, sur 3-4 ans, prenons une croissance. Et ce qu'on voit, et la dette augmente beaucoup plus vite. Il nous faut deux unités de dette pour faire une unité de croissance, voire 2,5. Donc oui, le pays s'appauvrit et le niveau de vie des gens a augmenté.
Gilbert.
Oui, non, juste un élément pour dire que par rapport à ça, ce véritable danger et le véritable enjeu, c'est pas de dire l'inflation, c'est pas un débat sémantique, c'est la capacité qu'ont les banques centrales à réagir à cet événement. Et donc, le véritable enjeu, c'est que les citoyens ne perçoivent pas forcément la réalité comme les économistes en soi, c'est un fait. mais que les banques centrales s'appuient également sur une erreur d'appréciation pour modifier leur politique et pour durcir leur politique monétaire, ça, en revanche, ce serait grave. Donc, le débat sur l'inflation, ça peut être un débat intellectuel. La réalité de la hausse des taux d'intérêt, ce serait une catastrophe.
Ah, c'est très clair. Gilbert.
Non, deux points. D'une part, les banques centrales sont bien sûr attentives à l'inflation et éventuellement, enfin aux éventuelles répercussions de la montée de l'inflation sur la formation des salaires. Et ce risque n'est pas exclu. Le point qui est important, c'est que l'indice des prix a augmenté en France, si on prend l'indice harmonisé européen, de 2,5% en glissement sur un an. C'est un fait. Simplement, personne ne se reconnaît. C'est le ménage moyen. C'est un indice des prix calculé sur un ménage moyen.
Eh oui.
Le ménage moyen, c'est ni vous, ni moi. Chacun a son panier de consommation propre. Et d'ailleurs, j'invite chaque personne qui doute de cet indice des prix à aller sur le site de l'INSEE où il peut calculer son propre indice de prix en repondérant le panier.
On peut se faire son propre...
Absolument.
Ah,
absolument. Et donc, l'INSEE, sur ce plan-là, est évidemment très, très offreur, en quelque sorte, d'éléments concrets pour le débat public. Mais le ménage moyen, c'est une entité qui est indispensable pour évaluer l'inflation, mais qui ne correspond à aucun individu en particulier. Ouais. La question qu'il faut se poser dans un pays comme le nôtre, qui est en grande difficulté à la fois politique, sur le plan de la démocratie politique, sur le plan de la démocratie sociale, sur le plan évidemment des finances publiques, c'est qui va payer la facture ? Qui va payer la facture ? Comme vous l'avez très bien dit au début.
Absolument.
Il y a un prélèvement qui est fait sur le revenu national. Et un prélèvement qui n'est pas négligeable. Les trois payeurs potentiels, ça va pas être la planète Mars, évidemment. C'est ou bien les finances publiques, mais les finances publiques françaises sont exsangues. Ou bien les entreprises, mais les entreprises se font déjà bien matraquer, en particulier dans le dernier PLFSS et dans le dernier PLF. Et c'est les ménages. Mais les ménages, nous dit-on, sont très sensibles aux questions de pouvoir d'achat immédiat.
Oui.
Donc, il va bien falloir que quelqu'un paye. Et évidemment, matraquer davantage les entreprises, ça serait prendre le risque d'effet d'offre très défavorable à l'économie française.
C'est le choix qu'on a fait depuis deux ans, en tout cas.
Absolument.
C'est les entreprises qui redressent les comptes.
C'est clair, mais c'est les entreprises et l'État. Et l'État, augmenter davantage notre déficit, ça serait léguer à nos enfants un fardeau de dette encore plus élevé. Et puisque vous avez passé un petit extrait d'une intervention du gouverneur de la Banque de France, je renvoie les auditeurs au contenu de la dernière lettre au président de la République.
Où le gouverneur
dit très bien que le choix que nous avons fait sur les dernières années et le choix de la gérontocratie. Et quels sont les symptômes de ce choix ? Eh bien, par exemple, que les pensions de retraite sont indexées légalement. D'ailleurs, il faut une décision légale pour enlever, pour abaisser, pour diminuer cette sont indexées sur les prix. Le pouvoir d'achat des retraites, quel que soit leur niveau, est protégé. Le pouvoir d'achat des salaires, sauf au niveau
du SMIC. Non, pas les pensions des cadres, elles n'ont pas été augmentées.
Sauf au niveau...
Les pensions des cadres, qui représentent une grosse partie, n'ont pas été augmentées cette année.
On y reviendra.
C'est sur le régime de base.
Le régime de base qui fait les trois quarts des pensions.
Oui,
hein.
D'accord.
Sur les 420 milliards, ça fait un petit peu plus de 300 milliards.
Non, mais vous avez raison, Gilbert.
Je le rappelle. Et pour les autres, c'est l'inflation moins 0,4, quel que soit le niveau de l'inflation, sur les deux dernières années. Donc, je le rappelle aussi. Donc, sur ce plan-là, c'est l'inflation moins 0,4. Et du côté des salaires, par contre, il y a eu une perte de pouvoir d'achat. Les années 2022...
C'est pas ce que dit l'INSEE, alors.
2022-2023...
Les salaires ont augmenté en pouvoir d'achat.
Non. La masse salariale, les salaires individuels, le salaire moyen a perdu du pouvoir d'achat pendant la crise inflationniste et à la guerre en Ukraine. Il commençait à en récupérer un petit peu, mais le surcroît, la remontée de l'inflation va évidemment amener le salaire moyen par tête à perdre logiquement du pouvoir d'achat. Les négociations salariales ont lieu en début d'année sur une inflation de l'an dernier est évidemment plus faible que l'inflation vers laquelle on se dirige en 2026 et en 2027. Donc, il y a un choix qui consiste à dire les actifs payent au niveau individuel, pas au niveau global de la masse salariale. Les retraités ne sont pas mis à contribution. Et les jeunes, eh bien, on leur lègue un fardeau de plus en plus lourd. C'est ce que le gouverneur appelle des choix gérontocratiques. Est-ce qu'il faut les prolonger ? Voilà, c'est une question qui est mise dans le débat public.
Je voudrais juste réagir par rapport à ce que dit le gouverneur, effectivement. L'indexation sur l'inflation était une indexation qui avait été décidée pour abaisser les retraites, puisqu'avant, les retraites étaient indexées sur les salaires.
Absolument.
Et donc, quand on regarde la décision qui a été prise en 1993, si on fait évoluer les retraites comme... si on avait fait évoluer le SMIC, comment évoluer les retraites, effectivement, le SMIC aujourd'hui serait à 8,50 €. C'est-à-dire que les retraités ne sont plus à la partie supérieure en termes d'âge de la population n'est plus associée à la vie économique du pays. Elle n'est plus associée à la croissance. Quand il y a la croissance, elle n'en bénéficie pas. Quand il y a effectivement une amélioration de la situation, elle n'en bénéficie pas puisqu'on lui donne comme seul objectif et comme seul
l'inflation.
Juste le maintien de son pouvoir d'achat.
Sauf que le pouvoir d'achat comparativement a augmenté du côté des retraités par rapport à celui des actifs.
Mais pas du tout. Encore une fois, depuis 1993,
avec la crise inflationniste,
oui,
les 5 dernières années,
en relatif,
en absolu, le pouvoir d'achat des salaires a plus augmenté que celui des retraités, puisqu'il n'a pas augmenté. La deuxième remarque que je ferai, c'est que ce discours qui consiste à dire il va falloir trouver quelqu'un qui va payer, je pense qu'effectivement, une façon de faire payer les gens, c'était ce qu'avait dit François Bayrou, c'était de les faire travailler.
Oui.
Je pense que la solution, c'est pas de punir des gens en disant oh, vous êtes vieux, en fait, c'est le conte de Grimm, c'est à un moment donné...
Mais c'est pas une punition, on a un rétablissement des comptes publics à faire, on a des économies à trouver.
Mais comment on partage l'effort? Est-ce que l'effort, ça doit être d'appauvrir une partie de la population, et notamment la partie la plus âgée de la population, ce qui est contraire, à mon avis, à une certaine forme d'éthique de la démocratie, ou est-ce que c'est de demander aux gens qui sont susceptibles de travailler davantage? Est-ce que le problème, je ne veux pas provoquer mon voisin, mais est-ce que le problème, c'est pas les 35 heures, plus que le niveau de vie des retraités?
Ou le taux d'emploi des seniors et des jeunes?
Guillaume Dard. Pour aller un peu dans ce sens-là. Un, ce que ça souligne, c'est le problème du système de retraite français, de la répartition. C'est-à-dire que on a toujours à peu près sur le même problème. Le gâteau ne grandit pas,
on ne
travaille pas assez, donc il y a un gâteau qui est plus petit. Pour le répartir, on dit « Ah bah alors, mais il en prend plus, il en prend moins ». Vous voyez le débat byzantin dans lequel on est. Moi, je n'oserais pas, Gilbert connaît mieux que tout le monde tous les chiffres. Mais même à l'intérieur de ça, les retraites, il dit « la retraite des cadres, elle progresse moins vite ». Et quand on regarde les taux de remplacement des salaires de cadres de la génération actuelle par rapport à celui d'il y a 25 ans, 30 ans,
30 ans
il est très inférieur.
Oui.
Donc, alors on pourrait dire, c'était les boomers d'avant qui ont été les vrais méchants, mais alors les boomers d'aujourd'hui, mais ils sont encore méchants parce qu'ils prennent plus. Et c'est vrai que sur l'actif actuel, sur les actifs actuels, les taux de prélèvement sur la retraite
sont faramineux. On est à 28% du salaire.
Mais donc,
ça va faire qu'augmenter.
Mais en même temps, sur la psyché française, là aussi, on peut se dire tout le monde responsable, puisque, un, on n'a pas voulu de fonds de pension. Même quand la droite le vote en 94, on ne met pas en place les décrets d'application. Alors maintenant, on dit on pourrait en faire un petit peu à côté, mais enfin, comme il y a déjà des gros prélèvements sur les salaires, ça ne va pas être facile. Et individuellement, les gens sont quand même moins bien payés et les retraités, ce que ça dit, c'est prenez votre retraite le plus tôt possible parce qu'il ne restera rien après.
Oui,
et en plus, on ne veut pas rallonger la durée de retraite dans les deux sens, puisqu'on se dit, j'ai intérêt à toucher tout de suite tant qu'il y en a, et deux, je ne veux pas travailler.
Gilbert.
Oui, il y a une toute petite confusion dans les chiffres, il faut que les auditeurs soient clairs sur ce point-là. Effectivement, sur longue, même sur moyenne période, le pouvoir d'achat salarial a progressé. Ce qui est tout à fait logique, parce que même s'ils sont faibles, il y a eu des gains de productivité.
Non, non, pas bénéficié les retraités. Il n'y a que les salariés qui en ont profité.
Absolument, Jean-Marc. Mais sur les trois dernières années, là, les choses sont un peu différentes. Et les salaires, au niveau individuel, ont payé une part du prélèvement exercé par l'extérieur, par l'augmentation du prix de nos importations et en particulier du prix de nos importations en produits énergétiques. Donc, la question n'est pas d'apporter une réponse définitive, de dire un tel. Il faut qualifier les choix qui ont été faits et les mettre clairement sur la table pour le débat public qui ne manquera pas d'avoir lieu dans le contexte des débats budgétaires de la fin de l'année qui vont être assez durs. Qu'est-ce que l'on veut faire et qui doit payer la facture? Et il est clair, pour l'instant, que certains choix ont été faits en France. Le gouverneur dénonce une gérontocratie. Est-ce qu'il faut...
Et moi, je dénonce le refus du travail. Je maintiens que le véritable enjeu, c'est pas de...
On va continuer à tirer
fil. Répartir différemment le gâteau, c'est de commencer à dire aux gens, il va falloir peut-être augmenter le gâteau.
On va continuer à tirer le fil, s'il vous plaît, messieurs, conflictuel de la guerre des générations. Après une courte pause publicitaire, le débat s'anime. Comment financer la dépendance? On voit qu'on n'en a pas fini avec la gérontocratie. Et puis, on parlera un peu des droits de douane. Cet accord enfin signé entre les États-Unis et l'Europe. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Alors, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passées de 2 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts. On débat autour de l'actualité économique du jour avec Guillaume Dard, président de Montpensier à Brevel, vice-président de l'Association française de gestion financière. Jean-Marc Daniel, éditorialiste à BFM Business. Et Gilbert Sette, professeur d'économie à Neoma Business School. Je voulais qu'on parle dépendance. On parlait retraite juste avant la coupure publicitaire et pouvoir d'achat. Là, je voulais qu'on parle dépendance. Avec cette proposition iconoclaste qui a le mérite de nourrir le débat de la Fédération hospitalière de France qui propose de financer la dépendance. Vous savez qu'on va avoir des besoins chiffrés en milliards d'euros hein, sur ce cinquième pilier de la Sécu qu'on a toujours du mal à voir émerger. Et ben comment le payer? La FHF nous dit, allons voir du côté des droits de succession. Bah oui, vous savez qu'il y a cette grande transmission de patrimoine qui arrive entre 5 000 et 9 000 milliards d'euros de patrimoine. Alors, vont changer de main d'ici 2040.
La bonne nouvelle dans cette déclaration, c'est qu'ils ne disent pas qu'il faut augmenter les droits de succession. La mauvaise, c'est qu'effectivement, en lançant un débat comme ça, probablement, ça dérapera vers...
On voit le pactole qui pointe le bout de son nez, là.
Ce que dit la Fédération, c'est que le pactole, effectivement, il va être en volume, sans changer les taux de droits de succession, il y a beaucoup plus d'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État pour les droits de succession. Et donc... la logique, si j'ai bien lu leur communiqué et les interviews, c'est qu'ils disent il faut flécher. Il faut flécher. Et donc, d'ailleurs, en termes de conception, c'est pas anormal. C'est ce que font d'abord les gens individuellement. Les gens individuellement, ils vont consommer leur patrimoine dans leurs dernières années, si vous voulez. Que ce soit pour payer une EHPAD ou pour payer des gardes à la maison, ceux qui peuvent le faire vont consommer leur patrimoine. Après, il y a ceux qui n'ont pas de patrimoine et qui sont aidés globalement par la solidarité nationale. Et ce que je comprends de ce texte, c'est de dire il faut que l'État flèche pour la sécurité sociale une part. Et encore, il
parle on cherche 10 milliards hein, pour le financement de la dépendance.
Mais ce que j'ai lu, c'est qu'il ne parlait pour commencer que d'un milliard. Mais donc je trouve que c'est une bonne idée. Si on dit à l'État, grosso modo, vous allez encaisser davantage de droits de succession sous réserve que vous ne les montiez pas trop, parce qu'à ce moment-là, comme toujours, l'assiette taxable baissera, eh bien... C'est une bonne idée, au fond, générationnellement. Et alors là, justement, on n'est pas dans le choix gérontocratique. Enfin, c'est un choix gérontocratique, mais enfin, on dit aux gens, c'est votre argent qui...
Nécessité de s'adapter aussi à l'évolution démographique du pays.
Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, dans la mesure où il précise qu'il ne faut pas augmenter les droits de succession, c'est une bonne idée.
Gilbert.
Oui, c'est un débat qui est intéressant. Dans une approche très très simpliste, économique très très simpliste du cycle de vie, on considère que les gens finissent leur vie avec un patrimoine nul et ont consommé effectivement à la fin de leur vie l'intégralité de leur patrimoine. C'est pas vérifié. C'est pas vérifié dans les chiffres. Et beaucoup, il y a beaucoup de travaux hein, sur cette question-là. Et c'est pas vérifié dans les chiffres pour des raisons très simples. D'abord, les gens prennent du plaisir à transmettre. Ah, et oui. Puis, c'est ce qui est quand même une raison de disparaître avec un certain patrimoine. Et puis, l'autre élément fondamental, c'est que personne ne connaît, heureusement, avec certitude, le moment de sa disparition. Et donc, évaluer ou être à ce point optimisateur qu'on finit sa vie avec un patrimoine nul est quelque chose qui n'est pas vérifié. Fort heureusement, parce que ça signifierait que chacun d'entre nous connaît à la seconde près le moment de...
Ce n'est pas tout à fait le cas.
Le moment de sa disparition, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'idée qu'il y ait une contribution qui, d'une façon ou d'une autre, réintroduise cette logique compte tenu de l'incertitude que chacun d'entre nous vivons sur la durée de notre vie, c'est pas totalement absurde. Maintenant, il faut que le débat, évidemment, se fasse d'une façon sereine, détendue, et on sait que en France, comme dans tous les autres pays, l'impôt sur la succession est l'impôt le plus impopulaire. Le plus impopulaire.
Oui.
Sachant que pour l'instant, les droits de mutation à titre gratuit, c'est pas grand chose.
Oui.
Au niveau national. Faut rappeler, ça doit être 22 milliards, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de très faible par rapport à d'autres sources de recettes fiscales. Donc c'est très faible et pourtant, dans le débat public, et je dirais pas dans l'inconscient collectif,
inégal,
mais dans la psychologie de chacun,
oui.
C'est considéré comme quelque chose d'absolument horrible, alors que la majorité, sinon,
sont exonérés.
Sont totalement exonérés de ce droit.
C'est ça qui est étonnant, Jean-Marc Daniel. C'est-à-dire que même les plus petits patrimoines sont contre une taxation qui ne les concerne absolument pas, alors que vous êtes la référence libérale de ce plateau, Jean-Marc Daniel. Si on cherche l'équité des redistributions et l'égalité réelle des chances au départ de la vie, finalement, la seule chose qui pourrait être justement taxée, c'est le patrimoine, non ?
Alors non, parce que je pense qu'effectivement, l'impôt sur le patrimoine est ça fait l'objet de beaucoup de recherches.
Oui.
Et donc, vous avez d'abord ceux qui expliquent quand même que l'impôt sur le patrimoine, ça a du sens si le patrimoine existe, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire l'impôt sur la terre, elle sera toujours là. En revanche, si vous mettez un impôt sur le patrimoine, sur l'outil de production, il y a des gens qui vont dire je ne vais pas créer cet outil de production pour ne pas avoir à payer d'impôts. Donc le aussi bien que ce soit les physiocrates jusqu'à Maurice Allais, tout le monde disait ça dépend du type de patrimoine que vous taxez. Ah. La deuxième remarque que je ferais, c'est effectivement, Gilbert l'a rappelé, c'est-à-dire que c'est 21 milliards, 18 milliards d'impôts sur des successions purement stricto sensu et 3 milliards sur les mutations, les donations. Et si vous regardez effectivement ces 18 milliards, vous apercevez que de plus en plus, c'est de nouveau des boomers qui les paient. Parce que celui qui hérite maintenant, c'est quelqu'un qui va...
Parce que les transmissions se font au-delà de 60 ans.
Voilà, parce que celui qui hérite maintenant, il a entre 55 et 60 ans.
Ben oui.
Et donc, et progressivement, au fur et à mesure que le temps passe, c'est de plus en plus un transfert de retraité à retraité.
Oui.
Donc, la question que l'on doit se poser...
Beaucoup de gens le transfèrent à la génération d'après.
Voilà, le véritable enjeu, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas alléger...
La circulation du capital.
Faire la circulation du capital, faire en sorte que, effectivement, aux États-Unis, par exemple, vous avez le choix de choisir vos héritiers. Vous n'avez pas forcément un héritage qui va immédiatement dans votre famille. Et donc, vous avez une réflexion à avoir sur le transfert intergénérationnel, sur le fait que effectivement, c'est vrai que les gens qui rentrent à la retraite très tôt pourraient continuer à travailler un peu plus, ce qui leur permettrait de payer les droits de succession. On en revient au point précédent. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un enjeu de réflexion sur cette automaticité dans la transmission vers la famille. Et la troisième remarque que je ferais, c'est qu'il faut préserver l'outil de production. Je pense que le Dutreil est quelque chose d'absolument
qui a été menacé lors du dernier projet de loi de finances.
Il faut le garder. Et il faut penser à cette idée que si vous n'avez pas les moyens de payer vos droits de succession, vous allez être obligé de vendre votre patrimoine. La question qui se pose, c'est qui va l'acheter ?
Et oui.
C'est-à-dire que dans les évaluations, il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il y a toute une évaluation qui est artificielle parce que l'immobilier tel qu'il est valorisé dans ces calculs et n'a pas la véritable valeur marchande. C'est-à-dire c'est la distinction entre la valeur d'échange et la valeur d'usage. Quand on est dans un appartement, il y a une valeur d'usage qui est assez importante, et qu'on peut constater que la valeur d'échange est assez faible. Donc la réalité, là aussi, des espoirs en termes de recettes potentielles est peut-être appelée à être déçue. Ce que je dirais pour conclure, c'est que je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut favoriser l'épargne, c'est-à-dire les gens qui vont acheter, il faut que pour acheter, ils aient dégagé de l'épargne.
Jean-Marc Daniel, contrairement au discours.
Voilà, et donc on en revient à ce discours éternel que je tiens chaque fois que j'ai un micro sur cet thème.
La répétition est le premier pilier de la pédagogie, cher Jean-Marc.
Et épargner plus.
Bon, la question, c'est pas tant les droits de succession, si je vous comprends bien, que le droit des successions qu'il faut un peu revoir.
Oui, il faut
un peu
le faire bouger. Alors, le droit de succession, sans faire un grand cours, c'est qu'effectivement, la Révolution française a décidé que tout était partagé entre
dans la famille.
Et que la réserve était au fond du nombre d'enfants, enfin de la différence, la division par le nombre d'enfants et une part qui pouvait être donnée à qui on voulait. Donc ça, c'était un changement de mentalité qui a provoqué le fait que les propriétés agricoles sont devenues plus petites en France par rapport à d'autres pays et ça a posé d'autres sujets. Mais c'est très dans la psyché française, c'est-à-dire que l'égalité, l'égalitarisme, etc., tout ça est très ancré, donc difficile de le bouger. Deuxièmement, il existe néanmoins déjà des possibilités de passer des choses à la génération suivante, ce qui est d'autant plus important quand il s'agit d'outils de travail.
Oui.
Troisièmement, je pense que Jean-Marc a, comme toujours, mais très bien fait, de souligner l'importance de l'outil de travail. On a trop vu dans cette France qui ne produit, paraît-il, maintenant plus que 37%, je ne sais pas si ce chiffre est juste, mais je l'ai lu cette semaine, 37% des biens qu'elle consomme sont produits sur notre pays. Donc, si on n'a pas d'entreprise, enfin, on ne va pas reparler des masques, enfin, tout ça, si on n'a pas un tissu industriel, et ce tissu industriel, il ne va pas se faire tout seul avec passage à chaque génération où vous vendez aux équipes parce que ce n'est pas si facile. Et enfin, la France a toujours tendance à considérer que le reste du monde, c'est un village Potemkin. Ça nous permet à 8 heures de regarder ce qui se passe, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui se passe ici. Et les droits de succession ailleurs, ils sont comment, Raphaël? À part en Grande-Bretagne, où il y a actuellement un débat, puisqu'ils sont dans la même situation abominable, où on essaye de les remonter, partout ailleurs, ils sont entre 0 et quelques pourcents.
Donc inférieur, vous dites?
Ah oui,
il y en a pas.
La France est avec la Belgique.
Ah ben moi, je l'avais dit.
France et la Belgique sont très largement au-dessus
de l'Europe. Il y a que nous. Alors, si le pari, c'est encore de faire qu'on n'ait pas de capital, enfin, qu'est-ce que c'est que la croissance? C'est du capital, du travail, du produit, la combinaison des facteurs et donc de la technologie, de la productivité. On a encore de l'épargne. Si on veut aussi tout mettre dans le pot commun, ça va pas marcher.
Alors, en même temps, bon, je reviens au sujet de la dépendance, hein, pardon, mais...
Le raisonnement consistant à dire qu'ils sont plus élevés en France, c'est un raisonnement qu'on pourrait généraliser. L'imposition du capital est plus élevée en France, l'imposition du travail est plus élevée en France, l'imposition sur la succession est plus élevée en France. Il n'y a qu'une imposition qui est sans doute plus faible en France que dans très nombreux pays, c'est l'imposition sur la consommation.
Hein,
il faut le dire et le répéter parce que les pays qui sont
c'est pas très populaire.
Il faut répéter ça en rajoutant que les pays qui sont les moins inégalitaires, m'entendez bien, les pays qui sont les moins inégalitaires, pays nordiques et scandinaves, ont souvent des taux normaux de TVA de 22 voire 25%. Donc la TVA n'est pas le levier d'une augmentation, d'une amplification des inégalités comme on l'entend très souvent. Donc la France se caractérise par plus d'imposition sur les facteurs de production, plus d'imposition sur le capital via les successions aussi, et moins d'imposition sur la consommation. Donc, c'est une logique globale, en quelque sorte, de taux moyen, c'est-à-dire d'ampleur de l'imposition d'abord à laquelle il faut réfléchir, et qui est liée, je suis d'accord avec Jean-Marc, qui est liée à la quantité de travail. Hein. La France est dans le club des pays riches, on m'accorderait que je l'ai souvent répété, la France est un pays pauvre. C'est-à-dire que le produit intérieur brut par habitant de l'Allemagne, des pays nordiques, scandinaves, des pays
bas,
très largement supérieur au nôtre.
Inférieur pour la quatrième année.
Principalement parce que le taux d'emploi des jeunes, des peu qualifiés et des seniors est beaucoup plus bas en France que dans ces pays-là. Et puis, au-delà du taux de prélèvement moyen qui est lié au fait qu'effectivement notre PIB est faible par habitant comparé à ces autres pays, il faut réfléchir à la structure des prélèvements. À la structure des prélèvements, qui sans doute fait assez peu de cas des prélèvements sur la consommation et a trop d'ampleur sur les prélèvements, sur les facteurs de production.
Gilbert Sedd propose d'augmenter la TVA et de passer les impôts sur les entreprises. Je vous propose de lancer
sur les entreprises et sur le travail. Et en répétant que les pays les moins inégalitaires, pays nordiques et scandinaves, ont des taux de prélèvement sur la consommation supérieurs aux nôtres.
Gilbert Sedd te rappelle parfaitement une pensée sage, très sage, mais on est dans cette phase de challenge des grands pays démocratiques, et le choix français, depuis 30 ans, il est de privilégier la consommation, de permettre à ce que cette consommation soit la plus forte possible, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que c'est pour ça que la Chine...
Et qu'elle réussit aujourd'hui.
Les importations chinoises...
Puisqu'elle recule.
On n'a plus de production.
Oui.
Et dans ce contexte démocratique et de montée des populistes, il est sûr que personne ne le fera, cette augmentation de la TVA. Or, ce serait une des recettes de restabilisation, puisque, là je rejoins aussi Jean-Marc, on manque d'épargne. C'est-à-dire que quand on nous dit « Ah, il y a de l'épargne », l'épargne, elle est... S'il y en avait trop, C'est que simplement, elle compense, dans un effet ricardien, l'énorme déficit gouvernemental. Mais au total, on est en position extérieure nette, oui, négative. Oui. C'est-à-dire que la France doit plus au reste du monde qu'elle n'a de créances sur ce reste du monde. Et que tout ça va en même temps. On parlait de la dette, des taux. C'est cet appauvrissement dans des proportions incroyables du pays relatif, alors que les personnes, bien sûr, pas tout le monde individuellement, plein de gens sont des situations horribles et c'est terrible, ont quand même, sur 30 ans, c'est à peu près 3 fois, sur 40 ans, il y a un très bon livre de Hippolyte Dalbis là, qui est sorti, oui. Je crois qu'on a triplé sur 40 ans à peu près, 60, triplé le niveau de vie par habitant, et qu'on arrive en fin de course avec un système qui ne fonctionne plus, pas assez de travail, pas assez de production, trop de dettes, et une promesse évidemment très difficile de dire il va y avoir. Mais en 60, je finis juste par là, sur la dernière crise de l'énergie en 73, rapidement. On en a déjà parlé, Raphaël, on réécoutait Messmer hier. Messmer a dit, les prix de l'énergie montent, on va se serrer la ceinture parce qu'il faut que le pays survive. Et personne ne peut aujourd'hui dire ça. Tout le débat est dans l'autre sens.
Oui, juste pour compléter ce qu'on vient de dire, et pour rebondir sur une remarque que nous avons faite off, je pense que un des enjeux, c'est aussi d'augmenter le prix du carbone. C'est-à-dire, je pense que plus que la TVA...
Alors, on a servi pour augmenter le prix du carbone.
Il faut augmenter le prix du carbone. Or, off, on constatait que les recettes fiscales liées à l'augmentation du prix du pétrole n'étaient pas au rendez-vous, contrairement à ce que racontent un certain nombre de membres de la classe politique, parce que le signal prix fonctionne si vous augmentez le prix de l'essence. La consommation baisse.
30% de baisse sur les 10 premiers jours du mois de mai de consommation des carburants.
Or, on a besoin de faire baisser cette consommation parce qu'il y a un enjeu qui est un enjeu climatique. Gilbert parlait des pays du Nord qui ont des taux de TVA élevés, mais ils ont aussi une taxe carbone beaucoup plus élevée que la Nord.
Je pense que
la vraie solution, c'est de faire comprendre là aussi à la population que l'enjeu énergétique et l'enjeu climatique ne sont pas à prendre à la légère et qu'il va falloir accepter de payer plus cher son essence.
La dernière fois, ça a créé la crise des Gilets jaunes.
On ne peut pas dire qu'on va saloper la planète à cause de la crise des Gilets jaunes. Non, il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités.
Allez, il est 10h passé de 19 minutes, vous êtes toujours en direct sur BFM Business. Et les experts, je voulais qu'on termine en parlant quand même de cet accord signé enfin... en Europe, entre les eurodéputés et les États membres de l'UE, cet accord, l'accord commercial avec les États-Unis, l'accord de Turnberry. Vous vous souvenez, l'année dernière, Ursula von der Leyen, qui était dans la propriété de Donald Trump, en Écosse, en train de signer ses 15% de droits de douane pour l'ensemble de l'UE. Pourquoi on a mis tant de temps à signer ce... Jean-Marc, je continue avec vous. À signer cet accord. Ça fait 10 mois.
Oui, parce que vous savez, tout ce qui concerne autour du commerce international, du libre-échange, est devenu en Europe quelque chose qui est absolument épidermique. Les gens réagissent. Et donc, en fait, il y a derrière ça, il y a trois éléments qui jouent. La première, c'est que certains observateurs ont la conviction que tous ces accords sont extrêmement fragiles parce que le Congrès des États-Unis n'a pas été consulté. Et donc, les droits de douane qui sont présentés par les Américains, par le gouvernement américain, n'ont absolument aucune légitimité et aucune valeur juridique. Donc, c'est pas la peine non plus de se précipiter. La deuxième, il y a une contestation de la façon dont s'est comportée la présidente de la Commission, dont on a considéré qu'elle était allée au-delà de ses pouvoirs, ce qui n'est pas le cas.
À juste titre ou pas ?
Non, c'est la Commission qui négocie les accords internationaux, et qu'elle avait été maladroite dans sa présentation. Je suis moins critique, parce que je pense qu'elle a compris que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Là aussi, on disait ça tout à l'heure, off. Je pense que Madame von der Leyen a compris qu'avec Trump, ça marchait pas mal de jouer la soumission.
Nous sommes la région du monde qui avons écopé du taux le plus bas.
Et donc finalement, elle s'en est pas
beaucoup s'interrogent pour savoir comment on a fait.
Et la troisième remarque que je ferai, qui n'a rien à voir avec le délai et tout ça, c'est quand même que il y a aussi la perception de plus en plus de gens qui fait que les produits européens sont des produits qui sont consommés par une certaine type de population aux États-Unis.
Plutôt élitiste.
Plutôt assez élitiste. C'est ce que dit Nicolas Gregory Mankiw, là, l'économiste assez célèbre, qui dit, les droits de douane de Trump, effectivement, s'ils me concernent, concernant l'Europe. Parce que tous les soirs, je bois un verre de Chablis, j'ai une Audi, je suis habillé par Hugo Boss, et donc, les droits de douane qui me concernent, ce sont ceux qui sont sur l'Europe. En revanche, ma secrétaire, les droits de douane qui la concernent, ce sont ceux qui sont sur la Chine. Parce qu'elle est... Et donc, effectivement, la façon dont l'administration l'administration américaine traite ça est une façon qui est aussi liée aux élections. Donc je crois que les Américains se disaient, de toute façon, ce dossier est un dossier qui est un dossier, bon, une fois qu'ils ont lâché leur truc, démerdez-vous, parce que pour eux, c'est pas forcément l'enjeu essentiel, puisque c'est pas leurs électeurs qui sont concernés.
Gilbert, on sort gagnant ou perdant de ce taux de
croissance? Comme le diagnostic était fait par de nombreux économistes, était qu'on s'en sortait sans doute un petit peu perdant, et que le je dirais, dans le rapport de négociation de cet accord, l'Europe aurait pu tenir une position un petit peu plus dure. Là où je m'inscris tout à fait dans ce que vient de dire Jean-Marc, c'est que on vit dans une instabilité complète, au sens où on ne sait pas si les 15% de droits qui ont été imposés vont subsister.
Sont légaux ou pas, donc vont
subsister. Donc, des concessions ont été faites, mais dont on ne connaît pas la portée, la valeur, la durabilité, compte tenu du fait que l'instabilité juridique est totale aux États-Unis. Mais je dirais que, au-delà de ça et de la spécificité de cet accord, ce que montre aussi ce délai, c'est des délais procéduraux dont on peut évidemment que s'attrister concernant tout ce qui concerne l'Europe. C'est dit, c'est répété, ça a été affirmé de façon forte, enfin montré de façon forte dans le récent rapport Draghi. On est dans un continent, l'Europe c'est 27 États, et des décisions au niveau européen prennent des délais procéduraux, sont d'une complexité énorme. Je crois que ça illustre aussi cette chose.
C'était aussi une mesure de rétorsion de la part des Européens contre les États-Unis. Le Parlement européen a refusé de signer cet accord il y a quelques mois, parce que les États-Unis s'étaient engagés à ne pas toucher à la réglementation sur le numérique, et que Donald Trump est venu attaquer l'Europe très directement.
On rentre dans les vrais sujets. Je crois que tout était vraiment bien dit, et que c'est neutre, et que peut-être que ça ne se passera pas, donc ce n'est pas très grave, mais qu'en plus, comme l'a dit Gilbert, on a perdu du temps, et qu'on est du mal à décider des choses. Nous, chez Montpensier, on est à Arbevel, on est convaincus qu'il y a deux éléments qui sont clés pour l'Europe. Dans les deux grands combats du monde actuel, ce sont l'énergie et le numérique. Sur l'énergie, à part la France, qui a heureusement, je sais pas s'il y a eu une épiphanie et a compris qu'elle devait revenir au nucléaire. En Allemagne, visiblement, les rois mages sont pas venus, mais le prix de l'électricité dément. Donc, sur l'énergie, ce qui se passe en ce moment montre que le combat de l'énergie va être clé. D'autant plus, et on arrive au deuxième sujet, que l'IA, c'est beaucoup de consommation électrique, beaucoup de consommation électrique.
Pour les data centers.
Et sur la technologie, et en particulier sur l'IA. C'était intéressant ce matin sur BFM Business quand vous expliquiez ce qui se passe à Malte où ChatGPT va équiper tous les Maltais. Alors évidemment, c'est plus facile de le faire à Malte qu'en France, mais enfin, on est dans un combat. C'est-à-dire que ce sera un accès, comme on a l'électricité, comme on a Internet, on aura son IA. Alors, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'il faut prendre Chat? Est-ce qu'il faut prendre Claude? Il y a aussi un énorme commencement. Mais on est dans une nouvelle donne numérique où tout se passe là. Enfin, c'est centaines, même s'il y a une bulle, même si on peut toujours critiquer, dire que c'est exagéré, c'est centaines de milliards, c'est milliers de milliards qui sont en train d'être investis dans de nouvelles technologies avec une rapidité d'application tellement forte, c'est un changement de monde.
Oui.
Même le chemin de fer, qui était plus important
que les droits de douane, ce que vous nous dites.
Oui, c'est à la limite.
C'est pas là où
mais
ça
le
joue.
Numérique, je reprenais de Gilbert ce que disait, le combat, il va être sur le numérique parce que eux, les Américains, ils ont bien l'intention qu'on laisse bien la porte ouverte sur le numérique. Et le combat, il est sur l'énergie et sur le numérique avec les Américains. Et certains complotistes pensent même que les Américains ont bien compris tout ça, et que tout ce qu'ils ont fait, Venezuela, Iran d'un côté, c'est une volonté de peut-être même Groenland, etc., c'est de contrôler l'énergie mondiale, de façon à assurer la solidité de là.
Il nous reste une minute, Jean-Marc Daniel. Mario Draghi a aussi dit à Aix-la-Chapelle la semaine dernière que les accords commerciaux qu'on signait à l'international, c'était bien, c'était sympa, mais enfin, c'était facile, et que c'est pas ça qui allait rapporter gros. Il a avancé le chiffre de 0,5 points de croissance en plus, et que c'était les barrières intérieures au marché européen qu'il fallait lever d'abord en priorité.
Oui, agir sur les deux domaines n'est pas incompatible. Et je pense qu'effectivement, on a signé pas mal d'accords de libre-échange les 6 derniers mois, notamment avec l'Inde, oui. L'Union européenne, et donc je pense que c'est vers ça qu'il faut s'orienter. C'est-à-dire, il faut aller chercher la croissance là où elle va être, et la croissance, elle va être...
À Mumbai, et les normes. Et oui. Le combat des barrières internes, c'est ce que racontait le patron de Mistral. Oui. Ces normes, ces fonctionnements différents à l'intérieur des 27, la lenteur, comme l'a dit Gilbert, tout ça, ce sont des vrais sujets. On a du travail à faire à l'intérieur avant de se focaliser sur le débat avec les Américains.
On a encore beaucoup de pain sur la planche et ça nous fera de très belles émissions, comme celle d'aujourd'hui, qui sera disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business, sur toutes les plateformes de diffusion. Merci Guillaume Dard, merci Gilbert Sette et merci Jean-Marc Daniel. Tout de suite, c'est BFM Entreprise spécial RH animé par Sandra Gandoin. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30, 10h30, c'est le nouvel horaire, notez bien, 9h30, 10h30, toujours en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Merci.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.